Espace Horizon Inaccessible, 12e émission. Et nous retrouvons Jean-Jacques Ibos. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour James, bonjour chers auditeurs.
Alors aujourd'hui, quel est le thème de cette émission ?
Eh bien, nous allons voir la suite des programmes Apollo.
La suite des programmes Apollo. J'ai une première question. Nous n'avons pas fini de voir les questions des auditeurs concernant le programme Apollo, on est bien d'accord, mais avant de passer à la suite, peux-tu répondre aux dernières questions reçues ?
Avec plaisir.
J'imagine que les tensions qu'il y a dû avoir entre les astronautes, oui ou non ?
Oui, il y en a eu, mais les astronautes étaient à la base des militaires, pilotes de chasse, pilotes d'essai. Ils s'étaient formés et entraînés pendant des années pour suivre un programme bien établi. Et ils avaient un sens de la discipline très développé. Cela a fait que s'il y a eu des tensions entre eux, cela n'a jamais été ressenti vraiment par le public. On ne connaît qu'un cas où l'action d'un astronaute a été influencée par son humeur. Nous avons vu que lors d'Apollo 11, Neil Armstrong avait été le premier homme à poser un pied sur la Lune, alors que Buzz Aldrin avait estimé que cette tâche lui revenait de droit. Il n'a bien évidemment rien fait pour perturber cette mission. Mais il avait en charge de photographier le terrain et le LEM, après avoir récupéré l'appareil utilisé par Armstrong, et il ne fit qu'une seule photo de son chef de mission sur le sol lunaire, de loin, occupé à décharger les instruments scientifiques du coffre du LEM. Ce qui fait qu'hormis celle prise par la caméra du LEM, il n'y a qu'une photo de face de Neil Armstrong sur la Lune. C'est celle de son propre reflet dans les visières dorées d'Aldrin lorsqu'il a pris son coéquipier en photo. Et la célèbre empreinte de pas n'est pas celle d'Armstrong, mais celle d'Aldrin.
Autre question. Au retour, les astronautes ont dû passer des examens médicaux, oui ou non ?
Le 24 juillet 69, au retour d'Apollo 11, juste avant leur amerrissage, les trois astronautes avaient enfilé une combinaison biologique étanche pour des raisons sanitaires, car personne ne savait si les astronautes n'allaient pas ramener dans leur bagage, en plus des roches, des germes pathogènes. Ils sont embarqués dans l'hélicoptère qui les dépose sur le pont du porte-avions Hornet, mais l'équipage n'est pas autorisé à sortir sur le pont, et ils sont dirigés dans une cabine spéciale, le Mobile Quarantine Facility, pour un placement en quarantaine. Un médecin et un technicien de la NASA partageront leur isolement. Et ils subiront des examens pendant tout leur séjour à bord de cette cabine, pendant 21 jours. La même procédure sera suivie par les astronautes d'Apollo 12, puis devant le résultat des examens médicaux montrant qu'il n'y avait pas de risque sanitaire, cette période de quarantaine sera supprimée après Apollo 14.
Alors, une autre question. Il y a eu des loupés dans la mission ?
Il n'y a pas eu de loupés dans la mission Apollo 11. Tout s'est passé exactement comme prévu. Idem pour Apollo 12. Et puis, pour Apollo 13, un équipement, un réservoir d'oxygène, a explosé alors que le vaisseau était à mi-parcours entre la Terre et la Lune. Et une fantastique course contre la montre s'est engagée pour ramener les trois astronautes sains et saufs, alors qu'ils n'avaient quasiment plus d'électricité, très peu d'eau, qui est indispensable au refroidissement des équipements et à la survie à bord, et une atmosphère qui est saturée en dioxyde de carbone. Beaucoup moins grave pour les astronautes, mais dommageable pour la science, une expérience installée par Apollo 17, la dernière mission lunaire, n'a pas marché. Celle prévue pour détecter des ondes gravitationnelles. Une erreur de conception, une pièce trop lourde de 1 dixième de gramme, empêchera l'ensemble de fonctionner.
Autre question, quand même, ça a dû coûter cher et ça a servi à quoi concrètement ?
Oui, cela a coûté beaucoup d'argent aux contribuables américains. Mais il ne faut pas considérer uniquement le coût du seul programme Apollo, mais tous ceux qui l'ont précédé et permis sa réalisation, comme nous l'avons vu précédemment, à savoir les sondes Ranger, Surveyor, Lunar Orbiter, 2,7 milliards de dollars. Les programmes Mercury et Gemini, 1,6 milliard de dollars. Et le programme Apollo lui-même, 24,7 milliards de dollars. Si on ajoute à ces dépenses le budget de la NASA, 38 milliards de dollars, on arrive au chiffre de 67 milliards de dollars entre 59, la NASA ayant été créée en 58, et 72, dernière mission Apollo. Soit, en milliards d'euros de 2018, 380 milliards d'euros. Ce qui représente, en moyenne sur cette période, 2,5% du budget des États-Unis. Du côté des retombées de ces programmes, il faut les considérer sous quatre aspects. Politique. Énorme succès américain qui vont gagner la course par la Lune par chaos, les Soviétiques déclarant forfait à la suite de leurs échecs répétés. Scientifique. Grâce aux 381 kg de roches rapportées par des différentes zones par les missions Apollo, les géologues ont pu établir l'origine de la Lune et par la même mieux comprendre celle de la Terre. Et toutes ces missions ont enrichi les connaissances des techniciens et des médecins spatiaux, ouvrant la voie à la Station Spatiale Internationale aujourd'hui et à son occupation pendant de très longues périodes des astronautes. Par exemple, Scott Kelly a passé 340 jours dans l'ISS et Thomas Pesquet 6 mois. Et demain, cela servira pour l'installation des bases sur la Lune, puis après-demain au voyage vers Mars. Aspect industriel. Les sommes colossales investies dans cette aventure ont eu des retombées directes sur toute l'industrie aéronautique, injectant des capitaux qui ont permis à des géants industriels de se consolider et de mettre en œuvre ces technologies dans des programmes civils. Et enfin, au quotidien, pour nous, pauvres terriens, la liste est longue de tout ce qu'elle utilise tous les jours et qui nous vient de ses développements. Les panneaux solaires, les cellules voltaïques qui équipent tous nos appareils portatifs, ainsi que les puces électroniques, le joystick, les gants isolants de la chaleur utilisés pour sortir les plats des fours, les appareils électriques sans fil, la télécommunication en Wi-Fi, les thermomètres infrarouges, les détecteurs de fumée, la nourriture lyophilisée, les filtres à microfibres pour l'eau, les couches culottes de nos bébés, la mousse et mémoire de forme, les deltaplanes et surtout ce que vous utilisez au quotidien, le GPS.
Pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas plus régulièrement sur la Lune alors si on a fait une telle expérience probante ?
On a vu que la course à la Lune avait une origine essentiellement politique. Il s'agissait pour les Américains, quel qu'en soit le prix, financier et dans une moindre mesure humain, de battre les Soviétiques qui avaient avant eux fait de nombreuses premières spatiales, ce qui mettait les USA sous la menace de missiles nucléaires soviétiques. Il fallait donc que l'Amérique montre ses muscles et prouve qu'elle était capable de faire mieux que ses ennemis de l'époque. Et le président Kennedy a choisi alors le plus visible des symboles, la Lune. Mais une fois celle-ci conquise, dès le deuxième vol, le public américain a commencé à se désintéresser de cette aventure, ayant d'autres problèmes beaucoup plus terre-à-terre à traiter, comme la guerre au Vietnam. Et comme les Soviétiques ont déclaré forfait, incapables de rivaliser ni techniquement ni financièrement, les vols Apollo 18 à 20, dont les moyens avaient été lancés en fabrication, ont été annulés. Par la suite, tous les présidents des États-Unis ont promis, dans leurs programmes électoraux, de reprendre les vols vers la Lune. Mais à chaque fois, les projets ont été annulés par leurs successeurs, essentiellement pour des raisons de budget. L'espace n'a pas été abandonné pour autant. Les Russes, puis les Américains, ont mis en orbite autour de la Terre, vers 300 km d'altitude, soit très très près de la Terre par rapport à la Lune, des laboratoires, puis des stations spatiales, pour étudier le comportement des hommes et des matériels pendant des vols de très longue durée, dont la dernière station, l'ISS, est exploitée en commun entre Américains, Russes et Européens, avec, en ligne de mire, le retour sur la Lune, voire le voyage vers Mars. Mais en laissant aux dirigeants suivants le soin de fournir les budgets nécessaires. Et début 2019, Donald Trump vient de demander à la NASA d'accélérer le développement du programme de construction d'une station en orbite autour de la Lune, capable d'être une base de départ pour des astronautes allant se poser et s'installer sur la Lune ou pour les vols vers Mars. Affaire à suivre. À moins que les Chinois ne lui grillent la politesse, leurs dirigeants ayant clairement annoncé leur ambition d'être les premiers à retourner sur la Lune.
Autre question, il n'y a pas eu que la mission Apollo côté américain. Qu'ont-ils fait d'autres ?
Bien sûr, le programme spatial américain ne s'est pas limité à Apollo. Il y a eu bien d'autres missions. Exemple, le Planetary Grand Tour. En 1964, Gary Flandreau, jeune chercheur au Jet Propulsion Laboratory, découvre un alignement de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, favorable à une exploration des quatre planètes en 10 ou 12 ans, au lieu des 40 ans en configuration normale. Cas de figure ne se reproduisant que tous les 175 ans. Il propose alors le Planetary Grand Tour, et en 69, le Congrès américain lance le programme d'exploration de l'univers profond, avec deux phases. La première, les sondes Pioneer et Voyager. Les sondes Pioneer partent pour l'exploration du système solaire, programme dénommé programme d'exploration préalable. Deux sondes, Pioneer 10 et Pioneer 11, partent en éclaireur en 1972 et 73 pour aller voir ce qui se passe au-delà de l'orbite de Mars. Le 3 décembre 73, Pioneer 10 passe au plus près de Jupiter. Elle est suivie par Pioneer 11, lancé en avril 73, qui le 1er septembre 79, 6 ans après, frôle Saturne à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre. Pioneer 11 émettra jusqu'en 1995, Pioneer 10 jusqu'en 2002. Puis il y aura deux autres petits programmes vers Vénus, lancés en mai 78, Pioneer Vénus Orbiter, rebaptisé ensuite Vénus 1, qui se satellise autour de Vénus, tandis que Pioneer Vénus Multiprobe, soit Vénus 2, parti en août 78, envoie en décembre trois capsules dans l'atmosphère de Vénus. Une seule est prévue pour toucher le sol vénusien et l'enverra les données recueillies pendant l'heure où elle a pu fonctionner. Puis il y a les sondes Voyager, qui sont dédiées au programme d'exploration de l'univers profond. Les deux sondes Voyager sont lancées au cours de l'été 77, le 20 août, puis le 5 septembre, par des fusées Titan III. Ces satellites de 721 et 825 kg rejoindront la Lune en 10 heures, volant à 52 km/h. Pour mémoire, les capsules Apollo ont mis 3 jours pour faire le même chemin. Elles vont survoler Jupiter en 79, où elles trouvent des volcans actifs sur un de ses satellites, Io, puis Saturne, en 80 et 81, faisant 55 000 photos de sa surface, montrant l'existence d'un fin anneau autour de Jupiter. Les sondes voyageurs vont montrer que les anneaux de Saturne sont constitués de milliers d'anneaux, plus ou moins fins. Seul Voyager 2 ira vers Uranus, à 2,8 milliards de kilomètres de la Terre, qui sera survolé le 24 janvier 86, où elle découvre 10 nouveaux satellites, puis ira vers Neptune, à 4,5 milliards de kilomètres, en août 89, où là aussi elle trouvera 6 nouveaux satellites et des volcans actifs sur l'un d'eux, Triton. De même sur Europe, une lune glacée de Jupiter, et Encelade, une autre lune de Saturne, les sondes ont aperçu des geysers d'azote, en faisant les deux mondes les plus prometteurs du système solaire, abritant peut-être de vastes océans saumâtres situés sous la glace, où des organismes vivants pourraient prospérer. La sonde va scruter la grande tache sombre de Neptune, plus vaste que la Terre, avec des vents à 2500 km/h. Elle dépasse ensuite l'orbite de Pluton et sont en route vers la ceinture de Kuiper. Voyager 1 envoie une ultime photo de l'espace sur laquelle la Terre est un minuscule point bleu, a pale blue dot, le 14 février 1990, alors qu'elle était à 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. En 2004, Voyager 1 a atteint le choc terminal, qui marque la frontière où les vents solaires cèdent le pas au milieu interstellaire. Idem pour Voyager 2 en 2007. Et le 25 septembre 2012, la NASA annonce officiellement la sortie de Voyager 1 du système solaire, et idem pour Voyager 2 le 12 septembre 2013. Volant à 15 km par seconde, elle parcourt 500 millions de kilomètres par an. Et dans 40 000 ans, Voyager 1 sera à proximité d'une des étoiles de la Petite Ours, Gliese 445. Quant à Voyager 2, son objectif est l'étoile de Sirius, qu'elle atteindrait peut-être dans près de 300 000 ans. Mais les deux sondes seront inactives, leur cœur nucléaire devant s'arrêter de fonctionner vers 2025-2030. Elles emportent avec elles un disque en cuivre, le Voyager Golden Record, sur lequel sont gravées 116 photographies de la Terre et 27 extraits musicaux, classiques et modernes, ainsi qu'une gravure représentant un homme et une femme. Le mot « bonjour » y est gravé en 55 langues, accompagné d'un message de Jimmy Carter et Kurt Waldheim, respectivement président des États-Unis et secrétaire général de l'ONU au moment du lancement. La traduction en français du message de Jimmy Carter est la suivante. Nous tentons de survivre à notre époque, afin de pouvoir vivre dans la vôtre. Nous espérons qu'un jour, après avoir résolu les problèmes auxquels nous faisons face, nous rejoindrons la communauté de civilisations galactiques. Ce disque représente notre espoir. Pour permettre une éventuelle lecture, au disque est accrochée une cellule et une aiguille. Il devrait être écoutable pendant 1 milliard d'années, avant d'être dissous par l'érosion de micrométéorites et les rayons cosmiques. Et si un jour l'une d'elles croise une civilisation capable de comprendre le message et d'y répondre, restera-t-il sur Terre quelqu'un pouvant recevoir cette réponse? Pour célébrer les 40 ans de ses lancements, la NASA a lancé durant l'été 2017 un concours ouvert au grand public, donnant la possibilité de rédiger un message qui sera envoyé dans la même direction que celle prise par Voyager 1. Message lancé le 5 septembre 2017, qui mit 19h 35 minutes pour rejoindre la sonde partie 40 ans plus tôt. La NASA a aussi envoyé avec ce message un ordre aux 4 propulseurs de la sonde de se réallumer pendant 10 millisecondes afin de réaligner son antenne et maintenir ainsi les communications dans les années à venir. Il faut bien mesurer ce qui doit être considéré comme un exploit. Les moteurs construits par Aerojet Rocketdyne ont parfaitement fonctionné 40 ans après le lancement de la sonde, alors qu'ils n'avaient pas été utilisés depuis 1980. Les astronomes, grâce aux mesures faites par le télescope spatial Hubble, ont calculé la trajectoire des deux sondes pour les 100 000 prochaines années. Et la NASA a prévu de rester à l'écoute des sondes jusqu'en 2020. Donc, dans très peu de temps, on ne saura plus ce qu'elles deviennent. Autre sonde, Giotto. En 1986, la sonde Giotto s'est approchée de la comète Halley. Elle a fait pendant 10 heures des photos de la comète, passant à 600 km de son noyau, montrant qu'il était constitué de neige. Pour mémoire, en 1910, le passage de la comète créa une vague de panique. Des gens craignant une collision avec la Terre prirent des pilules anti-comètes. D'autres imaginèrent de se faire projeter sur la Lune pour s'y mettre à l'abri. Autre explorateur, les explorateurs vers Vénus. La sonde Magellan est lancée le 5 avril 1989. Elle arrive en orbite autour de Vénus le 8 octobre 1990 et survole la planète entre 300 et 8500 km d'altitude, faisant des images radar associées à de l'altimétrie, permettant la réalisation d'images 3D de la surface. Vénus Express, première mission européenne vers Vénus, partie en novembre 2005, s'est mise en orbite autour de Vénus en avril 2006. Elle reprend des technologies utilisées par les sondes précédentes. Elle survole Vénus entre 250 et 66 000 km d'altitude toutes les 24 heures. Elle y étudie la circulation atmosphérique, l'effet de serre, l'activité tectonique et volcanique. Sa mission initiale de 500 jours sera prolongée en 2009, puis en 2012 jusqu'à fin 2014. Le 16 décembre 2014, l'ESA annoncera qu'après avoir épuisé son carburant, la sonde n'est plus en mesure de garder le contact avec la Terre ni maintenir son orbite autour de Vénus et que sa mission est terminée. Dernière sonde en activité autour de Vénus, Akatsuki, OB en japonais, dénommée aussi Planète C ou Venus Climate Orbiter, est un engin développé par l'agence spatiale japonaise, la JAXA, pour l'étude du climat sur Vénus. Lancée en 2010, elle a raté en décembre 2012 sa mise en orbite autour de Vénus, mais les techniciens japonais ont réussi à la remettre sur une orbite plus haute que prévue en décembre 2015, où elle peut effectuer une partie de sa mission d'exploration de l'atmosphère vénusienne. Voyons maintenant ce qui s'est passé autour de Jupiter. La mission de Galileo, une sonde de 2,2 tonnes et 1,4 milliard de dollars, et l'exploration de Jupiter et de ses satellites. Lancée en octobre 1989 par la navette Atlantis, elle arrive en octobre 1995 à destination. Elle tournera pendant 22 mois autour de Jupiter, découvrira des volcans sur le satellite Io. Une sonde est lancée sur cette planète par l'orbiteur. En fin de prolongation de mission, son carburant épuisé, la sonde est précipitée à l'atmosphère de Jupiter en septembre 2003. La Lune n'est pas non plus oubliée. Clémentine 1 et Lunar Prospector sont lancés en 1994 et 1998 et elles vont découvrir la présence d'eau dans les cratères des pôles lunaires, ce qui va donner des idées aux gens et aux techniciens d'exploration de la Lune et donner des futurs sites d'alunissage. Pour Mars, maintenant. Mars, en mai 1971, Mariner 9 fait sa première satellisation et la première carte détaillée de la planète, avec l'immense canyon Valles Marineris et d'imposantes formations volcaniques, donc Olympus Mons, un volcan de 24 km de hauteur, le plus grand du système solaire. Puis vient Viking, en été 75. Les deux sondes Viking 1 et Viking 2 sont lancées vers Mars, et le 20 juillet 76, Viking 1 se pose sur Mars, qui est alors à 75 millions de kilomètres de la Terre, dans les régions de Crise Planitia, suivies 6 semaines plus tard de Viking 2, dans Utopia Planitia. Elles font des prélèvements de sol martien et font 3 expériences in situ. Puis vient Mars Global Surveyor. En lancée en 96, elle débute ses observations en septembre 97, et pendant 18 mois, à 350 km d'altitude, elle photographie et cartographie la planète, étudie son climat et sa composition chimique. Puis, nous avons enfin Mars Pathfinder, l'explorateur. Lancée en 96, cette sonde inaugure une méthode d'atterrissage sur Mars originale. Elle est entourée d'airbags et va rebondir à la surface. Et une fois posée, les airbags vont se dégonfler et les sondes vont pouvoir déployer son atterrisseur. Toutes les sondes martiennes utiliseront ensuite cette méthode. Elle va déposer la surface de Mars dans le cratère Gale de la région de Crise Planitia un petit véhicule d'exploration, Sojourner, qui ira faire des photos et forages de roches proches du site d'atterrissage. Mais les tentatives sur Mars d'atterrissage sur Mars n'ont pas toutes été de succès. En 1999, la sonde Polar Mars Lander s'écrase à sa surface, le freinage de la sonde ayant été interrompu trop tôt. Et Deep Space 2 subira le même sort la même année. Il n'y a pas que des planètes qui sont surveillées, il y a aussi des astéroïdes. Sur la route de Jupiter, Galileo rend visite en 1991 à l'astéroïde Gaspra, un rocher de 19 km de long. Et elle survole aussi la sonde NIR, Earth Asteroid Rendezvous, survole Maltilde, un caillou de 66 km de long en juin 1997, puis survole Eros en décembre 1998 et revient se mettre autour de Eros en février 2000, puis s'y pose en février 2001.
Les Américains n'ont pas travaillé tout seuls dans l'espace.
Non, bien sûr. La conquête spatiale coûtait très cher. Les nations ont travaillé ensemble pour en partager les coûts. Première coopération, l'ESA et la NASA lancent un télescope spatial filmant dans l'ultraviolet en 1978. Cette coopération sera poursuivie avec Hubble en 90 et SOHO, pour qui va observer le Soleil, en 95. De nombreux astronautes européens vont accéder à l'espace grâce à des vaisseaux américains. Par exemple, pour la France, Patrick Baudry en 85 dans la navette Discovery, Michel Tognoni en 99 sur la navette Columbia, Claudie André-Aigneret en 2001 sur l'ISS, et plus près de nous, Thomas Pesquet qui passera en 2016 6 mois dans l'ISS. Autre coopération très importante entre l'Amérique et l'Europe, Cassini. Début 1980, le Jet Propulsion Laboratory et l'ESA, l'European Space Agency en Europe, agence qui regroupe 27 pays, travaillent chacun de leur côté sur l'envoi d'une sonde vers Saturne. Mais finalement, les deux agences s'unissent ensuite pour la mission Cassini-Huygens. L'orbiteur US s'appelle Cassini et la sonde européenne Huygens est embarquée par cet orbiteur. L'ensemble fait 6 tonnes sur la balance. Jean-Dominique Cassini était un astronome italien naturalisé français qui dirigea à la demande de Louis XIV, l'observatoire de Paris, et qui découvrit la première division au sein des fameux anneaux de Saturne. Christian Huygens, mathématicien, astronome et physicien néerlandais, confirma l'existence de ces anneaux et découvrit Titan. Lancé le 15 octobre 1997 de Cap Canaveral par une fusée Titan 4, le but de cette mission Cassini était d'explorer Saturne et ses lunes. Sa trajectoire l'a fait passer en avril 1998 à 234 km de Vénus, en juin de 1999, deuxième passage sur Vénus à 600 km, puis à 1100 km de la Terre pour bénéficier d'un effet de fronde qui va l'envoyer vers Saturne. Elle survolera alors Jupiter le 30 décembre 2000 et s'insérera sur l'orbite de Saturne le 1er juillet 2007, soit un périple de 7 années. Le 13 décembre, elle survole Titan et Dionée, deux lunes de Saturne, et le 25 décembre, elle largue la sonde Huygens vers Titan, où ce module se posera le 14 janvier 2005. La descente vers Titan durera 2h30, dévoilant la surface d'un monde caché par d'épais brouillards. Faisant de nombreuses mesures, elle va découvrir des pluies de méthane et des lacs de méthane gelés sur un sol à moins 180 degrés. Elle enverra une photo du sol de Titan, puis cessera de fonctionner au bout de quelques heures, comme prévu. C'est le premier atterrissage d'un engin sur une lune autre que la Lune. La mission de l'orbiteur devait s'achever en juin 2008, mais elle a été prolongée une première fois jusqu'en septembre 2010, puis jusqu'en septembre 2017. Le 15 septembre 2017, après s'être approchée des anneaux de Saturne et fait de merveilleuses photos au travers de ces anneaux, elle plongea à 126 km/h dans l'atmosphère de Saturne pour s'y désintégrer au cours d'une dernière phase de vol appelée Grand Finale par les Américains. Ceci afin d'éviter qu'elle n'aille s'écraser sur une des lunes de Saturne, Europe ou Encelade, lesquelles pourraient contenir des vies extraterrestres que la sonde aurait pu contaminer. En effet, Cassini a découvert des geysers d'eau sur Encelade, lune de 513 km de diamètre, ce qui signifie un océan d'eau liquide susceptible d'abriter une forme de vie. Et l'université de Heidelberg en Allemagne y a trouvé des molécules organiques. Et sur Europe, un océan liquide pourrait être présent sous l'épaisse couche de glace, grâce aux effets de marée provoqués par Jupiter. Un projet d'atterrisseur est à l'étude. C'est intéressant de donner quelques chiffres concernant cette mission. Elle a duré 35 ans, entre le début du projet en 1982 et la fin de la mission en 2017. La distance Terre-Lune, plus d'un milliard, Terre-Saturne, plus d'un milliard de kilomètres. La sonde a parcouru près de 8 milliards de kilomètres. 2,5 millions de commandes ont été exécutées tout au long de cette mission. 360 allumages du moteur. 294 orbites autour de Saturne. 172 survols des lunes de Saturne. 127 survols de Titan. 453 000 images réalisées. 635 gigaoctets de données scientifiques envoyées. 4000 articles scientifiques parus. 7275 jours de mission. La sonde a atteint la vitesse fantastique de 158 400 km/h. Elle a passé 4824 jours à explorer Saturne. Tout ça pour un coût total de 3,2 milliards de dollars. Pris en charge à 80% par la NASA, à 15% par l'ESA et à 5% par l'agence italienne qui était maître d'œuvre dans ce projet. L'astrophysicien André Braic, disparu le 15 mai 2016, faisait partie depuis 2004 de l'équipe d'imagerie qui a suivi la mission. Il avait déclaré dans « La science, une ambition pour la France » aux éditions Edith Jacob en 2012, « L'Europe a les moyens de développer la recherche. Elle n'en a pas la volonté politique. » Et aussi, « De la même manière que l'exploration des planètes nous a montré que la Terre n'était qu'un cas particulier d'un phénomène très général, peut-être que notre vie n'est qu'un cas particulier d'un phénomène très général dont nous ignorons totalement la nature pour l'instant. » Autre avancée faite par Cassini, elle a montré que les anneaux de Saturne ne sont pas une structure figée.
On va faire une petite pause musicale. David Bowie, Life on Mars, et c'est une version remasterisée rien que pour toi, Jean-Jacques.
Girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the law, man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? On America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing ball, 'cause I wrote it ten.
Les Américains et les Européens opèrent dans l'espace. Alors les Russes, ils sont absents?
Oh non. Les Russes avaient l'intention de se poser sur la Lune et ont développé un module lunaire prévu pour un seul cosmonaute. Module 3 fois plus léger que celui d'Apollo, bien que les Russes n'étaient pas des spécialistes de la miniaturisation. Mais dès le premier essai de la fusée N1 et du module lunaire, en février 1969, elle explose après 70 secondes de vol. Deuxième essai en juillet, pendant la période duquel Léonov continue sans entraînement, nouvel échec après 10 secondes seulement de vol. Et la fusée détruit totalement le pas de tir, faisant plusieurs morts de techniciens soviétiques. Les soviétiques abandonnent leur programme de débarquement humain en 1972, après 2 autres échecs de la fusée N1. Au grand soulagement de Léonov, qui avait ouvertement déclaré que pour lui, c'était une mission suicide. Et quasiment aucune trace de ce programme ne sera conservée par les autorités soviétiques. Une bande dessinée publiée en 2018, 1969, l'Odyssée fantôme, de Nicolas Westerwald, raconte ce qu'aurait pu être ce premier débarquement lunaire réalisé par un soviétique en même temps qu'Apollo 11. Après le camouflet subi par les soviétiques avec Apollo 11, Lunar 16 parvient à ramener des roches lunaires, forant une carotte de 35 cm et ramenant 110 grammes de sol basaltique prélevé dans la mer de la Fécondité, le 21 septembre 1970, très loin de la récolte d'Apollo 11 plus d'un an avant. Petite revanche soviétique. Luna 17 sera le premier à déposer un véhicule lunaire télécommandé, Lunokhod 1, le 17 novembre 1970, dans la mer des pluies. Il va parcourir 10,5 km sur le sol lunaire durant ses 10 mois et 20 jours d'activité, effectuant des analyses de sol et installant un réflecteur laser, tout en prenant 20 000 photos. Cet engin d'exploration lunaire était étudié en URSS depuis 1955. Si Luna 18 s'écrase sur la Lune, Luna 20 collecte 20 grammes du sol lunaire qu'il enverra sur Terre le 25 février 1972. Lunokhod 1 sera suivi de Lunokhod 2 en janvier 1973, qui fera 37 km en 4 mois, enverra 80 000 photos et 86 panoramas. Le dernier Lunokhod ne quittera pas la Terre. Il est exposé dans un musée à Moscou. L'arrêt d'envoi de sonde lunaire se fera en 1976 avec Luna 24, qui rapportera 170 grammes venant de la mer des crises. Beau joueur, les Américains échangeront 3 grammes de sol lunaire ramené par Apollo contre Croagramme ramenés par des Lunas. Ils sont aussi les Russes sur l'exploration de Vénus. Le 15 décembre 1970, Vénéra 7 est la première sonde à se poser sur Vénus et elle fonctionne durant 23 minutes. La température mesurée par la sonde est de 465 degrés Celsius. Elle sera suivie de Vénéra 8 en juillet 1972. Vénéra 9, un orbiteur, et Vénéra 10, un atterrisseur, envoient en octobre 1975 les premières images de la surface. En 1982, Vénéra 13 et 14 enregistrent les sons à la surface de Vénus, dans une atmosphère si dense, 90 fois celle de la Terre, qu'elle charrie des cailloux. Et Vénéra 13 fera la première analyse du sol vénusien. Toujours en 1982, Vénéra 15 et 16, deux orbiteurs, font de l'imagerie radar. Et une autre sonde Vega s'est posée sur Vénus en 1984 et mesurant la pression, 10 mégapascales, soit 10 fois la pression atmosphérique à la surface de la Terre, sa température, 450 degrés, et analysant son atmosphère chargée de gouttelettes d'acide sulfurique. Et elle teste sa surface. La sonde avait amené un passager, un ballon nommé Vega 1, qui dérivera pendant 46 heures à 50 km d'altitude, faisant environ un tiers du tour de la planète, dont il étudie l'atmosphère. Et puis nous avons Mars. L'URSS avait un projet de poser un homme sur Mars en 2017 pour célébrer le centenaire de la Révolution d'octobre. Mais cela n'a pas abouti et l'exploration de Mars a été dévolue à des sondes, du moins dans les projets, car la réalisation ne s'est pas passée comme prévu. Première tentative, Cosmos 419 devait aller se poser sur Mars. Lancé en 71, une erreur de programmation fera que son moteur ne s'est jamais allumé. Le 19 mai 71 est lancé Mars 2, mais à son arrivée en novembre 71 sur Mars, une violente tempête perturbe l'atterrissage et la sonde s'écrase à la surface. Sa sœur, Mars 3, partie 9 jours plus tard, subira presque le même sort. Si elle a pu se poser sur Mars le 2 décembre 71, les communications radio ont cessé au bout de 20 secondes, en voyant ce qui sera la première photo de la surface martienne, mais de si mauvaise qualité qu'elle ne sera pas reconnue comme telle. Et maintenant, nous allons écouter un petit morceau d'une musique qui s'appelle « Welcome to Lunar Industry ». Maintenant, j'ai le plaisir de vous diffuser l'interview réalisée avec M. Bruno Bigan, qui est navigant chez Airbus Industries à Toulouse. Monsieur Bruno Bigan, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été ingénieur navigant d'essai dans la grande société qui s'appelle Airbus, au niveau des avions. Pourriez nous dire en quoi consiste ce métier d'ingénieur navigant d'essai? Et dans un premier temps, comment est-ce qu'on arrive à être ingénieur navigant d'essai?
Alors, d'abord, il va falloir qu'on précise la nomination de ingénieur navigant d'essai. Elle peut s'appliquer aussi bien pour un ingénieur que pour un mécanicien navigant. On appelle FTE ou TFE des personnels ingénieurs d'essai. Je parlerai plus du rôle du mécanicien navigant d'essai par rapport à l'ingénieur d'essai. Tout ça, ce sont des personnels qui constituent l'équipage d'essai. Un équipage d'essai, c'est constitué soit d'une seule personne, si on parle d'un prototype d'avion militaire, d'un chasseur monoplace, il est évident qu'il n'y a qu'une seule personne à bord et c'est un pilote d'essai. Si on parle d'avion d'essai civil, c'est un équipage constitué d'un ou deux pilotes, d'un mécanicien navigant et d'un ou plusieurs ingénieurs d'essai. Donc je vais faire vite une parallèle par rapport aux chasseurs, aux avions d'armes, qui sont généralement pilotés seuls. Le pilote d'essai est seul à bord, mais il n'est pas seul pour faire ses essais, puisque ces avions modernes sont en liaison continuelle avec ce qu'on appelle des salles d'écoute ou des salles de télémesure, c'est-à-dire en liaison continuelle avec le sol, où se situent une dizaine de spécialistes, ingénieurs d'essai, qui guident et aident le pilote à faire son essai, puisque lui se retrouve seul à bord. Donc, c'est aussi un équipage, mais avec un seul opérateur sur avion d'armes. Puisque de toute façon, il faut bien qu'il y ait un premier avion, oui. Un premier avion qui décolle, oui. Et c'était les premières phases pour valider la phase de décollage. Et il est clair que le pilote était seul dans son cockpit, mais il est toujours assisté d'une télémesure et d'une batterie d'ingénieurs qui l'aide à savoir s'arrêter quand on a atteint les limites et qu'il faut corriger quelque chose ou procéder d'une autre manière pour pouvoir aller plus loin.
Oui, ces gens surveillent tout un tas de
paramètres,
de télémesures, ouais. Qui les renseignent sur le comportement de l'avion.
Voilà, parce que le pilote, il a des instruments à son bord, il a l'avantage, parce que lui, il est le seul, à avoir des sensations de son avion. C'est beaucoup au feeling qu'on réagit. On est appuyé dans nos décisions avec les instruments qui sont à bord, mais c'est plus à son ressenti, à ce qu'il entend, à ce qu'il ressent dans les vibrations qui va accompagner son essai. Les ingénieurs au sol voient une multitude de paramètres que ne voit pas le pilote et aideront le pilote pour lui dire « Attention, il y a un paramètre qui dérive, ça pourrait être annonciateur de ça. Ne va pas plus loin, ne va pas comme ci, ne fais pas comme ça. » Et on cherche les procédures pour pouvoir avoir les systèmes qui permettront de faire la mission pour laquelle l'avion a été défini.
Et ça, c'est vrai, que ce soit des avions civils ou des avions militaires, quand vous êtes quatre à bord d'un A350, il y a aussi une équipe au sol qui surveille
bien sûr. Maintenant, sur nos avions modernes, avions civils, on a de la place à bord, chacun a son rôle. Le pilote, il est là pour piloter. Le mécanicien navigant, il est là pour gérer l'état technique de l'avion. Et l'ingénieur, qui est avec une station d'essai dédiée, en fait, ce sont les ordinateurs qui étaient au sol pour l'avion d'armes, que l'on a embarqué et qui sont à bord pour l'ingénieur pour pouvoir faire correctement son essai, parce qu'il a la possibilité de voir d'autres paramètres, de voir évoluer ses paramètres avec une tendance qui va lui indiquer que le test se passe bien ou que le test est en train de dériver et qu'il n'est pas stable, par exemple. Un test qui n'est pas stable n'est pas un test validé. Et on est resté autour de la vitesse, mais avec des oscillations de plus ou moins. Et à partir de ce moment-là, le test ne sera pas jugé conséquent. Pourquoi on fait des tests? On fait des tests pour pouvoir tester un avion, pour pouvoir faire ce que l'on appelle des fiches de certification. Une fois qu'on aura l'ensemble des fiches de certification que l'on aura données à un service certificateur, on pourra obtenir ce qu'on appelle le CDN, certificat de navigabilité, d'un avion qui permettra au constructeur de fabriquer des avions identiques à ce CDN.
Et là, on passe de la phase d'essai d'un prototype à la phase de réception d'une machine de série.
Exactement. C'est la grande différence. Tous les avions sont testés, mais on ne peut pas parler de vol d'essai, même si ça s'appelle comme ça, ce sont des vols d'essai, mais c'est sur des vols d'essai sur des avions de réception par rapport à des vols d'essai sur des avions prototypes. Alors, sans chercher à vous embrouiller, il peut y avoir des petites nuances dans le sens où un avion de série peut devenir partiellement prototype parce que on lui change un système plus ou moins important dans sa conduite. Je parle pas de lui changer ses moteurs, mais on peut lui changer ses freins, on peut lui changer ses roues, on peut lui changer ses calculateurs et lui mettre un système d'anticollision. On peut lui mettre et ce système-là sera d'abord testé à travers des vols d'essai qui seront spécifiques, bien sûr, à ce système pour pouvoir dire au certificateur, oui, si vous montez ce système-là, il répond à ce cahier des charges et on peut le monter sur un avion de série. Suite à quoi, tous les avions de série sortira, si l'option a été choisie, avec ce système-là.
Mais donc, on est toujours, à un moment ou à un autre, dans une phase de prototype, même partielle.
Voilà.
Et donc, votre rôle à bord de cet avion, donc vous avez volé sur la 350,
oui,
sur A380,
et sur la 400M aussi, qui sont des avions complètement différents. Pour un avion, pour un avionneur civil, comme nous, Airbus, on est plus habitué à faire, que ça soit des 320, 330, 340, des avions civils. Et c'est pour ça que la 400M, qui est un avion, je vous le rappelle, à hélice, est un avion de surcroît militaire, parce que ce que l'on autorise pour des pilotes civils, pour des pilotes militaires, les règles seront différentes. Il est clair que le militaire ne fait pas de transport civil, c'est l'essentiel qui fait la différence entre un avion civil et un avion militaire. Un avion militaire, il sert à faire des missions et on n'aura pas les mêmes exigences avec des militaires qu'avec les civils. Mais avec les militaires, on fera des missions complètement qui sortent du cadre normal des civils. Par exemple, le ravitaillement en vol, il est clair, sur Airbus, on n'a jamais fait ça. Enfin, nos pilotes qui sont à formation militaire ont déjà fait du ravitaillement en vol. Mais valider des opérations de ravitaillement en vol, c'est particulier. Larguer des charges, ouvrir des portes en vol, ou faire du lancement de l'heure pour faire de la contre-mesure, ce sont des choses qui sont particulières aux militaires et qu'on n'aura pas sur le civil. Le civil, c'est déjà quand même un domaine très vaste, fonction de la taille de l'avion. Que ça soit un 320 qui est un petit avion, à côté d'un 350 ou d'un 380, qui reste quand même un des plus gros avions avec une technologie du dernier cri, puisque ces avions-là sont à la pointe de la technologie. Mais il faudra bien les essayer une fois. Il faudra bien faire le premier vol d'un avion comme ça. Alors, comment ça se passe? On a parlé d'un équipage, je vous rappelle, un pilote d'essai, un ingénieur d'essai, un mécanicien d'essai. Alors, comment débute un avion prototype? Un avion prototype, on va prendre le 380. Ça marche toujours comme ça, au moins chez nous, chez Airbus. L'avion, le prototype en question, il porte un numéro de série et il est associé à un mécanicien navigant d'essai. C'est-à-dire que ce personnel-là, il a été formé pour tester des avions. C'est-à-dire que, en tant que mécanicien navigant, il va prendre en charge cet avion-là depuis son entrée dans le monde des essais en vol jusqu'à la fin de la certification de cet avion. En gros, il faut compter entre 12 et 18 mois l'opération. Après, on peut avoir une certification de type pour cet avion et on peut avoir des compléments de certif pour avoir des pilotages automatiques 4-3, pour avoir d'autres fonctions que l'on a peut-être pas dans la première partie, mais qui sont des extensions de certification.
Qui peuvent correspondre à des demandes particulières de clients, par exemple.
Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas trouvé le bon ou le plus fort vent de travers. Eh bien, on aura une certification qui sera limitée avec le vent de travers que l'on a trouvé. Mais si demain, on trouve les conditions et les pistes qui nous permettent de démontrer un vent de travers plus fort, ça sera associé à des essais particuliers. Quand je dis des essais, c'est pas simplement de réussir à se poser une fois. Il faut le faire plusieurs fois, dans différentes conditions, de démontrer ça au service de certification pour que l'on puisse modifier le manuel de vol qui autorise à se poser avec tel vent de travers. Aujourd'hui, ce qui est vrai pour le vent de travers est vrai aussi pour les conditions extrêmes, que ce soit les conditions très chaudes ou les conditions très froides. Aujourd'hui, quand on vend un avion, on donne à travers le manuel de vol son domaine d'utilisation. Il est spécifié noir sur blanc que l'avion peut être opéré, selon l'exploitant, dans des conditions particulières, de moins 30 à plus 45. Tout est écrit noir sur blanc. Et l'exploitant doit respecter ces conditions. Mais qui dit qu'on doit respecter ces conditions, par exemple à moins 40, encore faut-il que les avions aient été soumis en conditions réelles à ces conditions-là. Et que les équipages d'essai, équipages, aient testé cet avion dans ces conditions-là. Pour pouvoir dire, oh non, moins 40, c'est extrême, on ne va autoriser que moins 35. Mais encore faut-il trouver les conditions qui permettent à l'équipage de mettre l'avion dans ces conditions-là. Et ça, c'est souvent très difficile. Aujourd'hui, trouver du vent de travers, ça reste problématique. Du vent, ah oui, ça on en a, on en trouve. Mais le vent, il est généralement de face sur la majorité des pistes qu'il y a sur notre hexagone. Quelquefois, on trouve des terrains qui ont des pistes perpendiculaires. Ah, ça devient, mais c'est pas la piste principale, donc les pistes sont plus courtes. Et ça nous donne de bonnes conditions pour avoir du vent de travers, mais c'est pas toujours dans des conditions qui nous permettent de faire des bons essais. Ça, c'est pour le vent de travers. Mais il nous faut aussi trouver du froid. Généralement, dans le programme d'essai qui démarre pour tel avion en septembre, eh bien, il nous faudra peut-être démontrer les conditions froid, c'est-à-dire partir en campagne temps froid, au mois de juillet. Et au mois de juillet, c'est pas le froid qu'on trouve. Donc, il faudra trouver soit une région du monde où il fait froid à ces périodes-là, peut-être pas en juillet, mais soit utiliser des artifices, et c'est ce que l'on utilise depuis ces dernières années. Ce sont un laboratoire qui se situe aux États-Unis qui permet de mettre un avion entier, genre 350. Vous imaginez que c'est pas un petit hangar dans lequel on est à même de pouvoir mettre un avion entier et pouvoir régler la température extérieure, que ça soit plus 35 ou plus 40, chaud, voire chaud et humide parce qu'on injecte de l'eau dans cette ambiance, ou inverser le curseur et sélectionner les températures négatives qui peuvent descendre jusqu'à moins 40. Mais la difficulté, ce n'est pas, c'est déjà de rentrer un avion dans un hangar comme ça. Il y a qu'aux États-Unis qu'on arrive à faire des choses pareilles. Mais ça devient encore plus délicat, imaginez, si l'on cherche à démontrer que c'est possible de démarrer ces moteurs à l'intérieur d'un hangar sans pour cela injecter les gaz d'échappement du moteur dans le hangar. Donc il faut collecter ces gaz d'échappement et évacuer ça à l'extérieur. Je vous laisse imaginer ce que peuvent être l'outillage et la manière de saisir l'avion au sol pendant ces essais pour qu'il ne bouge pas et que les outillages ne viennent pas en interférence avec les moteurs et permettent de faire ces essais. À ce titre-là, pour ceux qui sont adeptes, regardez cette chaîne qui s'appelle RMC Découverte. Il a été fait un film, je dirais pas très intéressant, mais je vais dire instructif, au sujet des différentes campagnes d'essai que l'on a fait sur l'A350, et qui s'appelle, si vous voulez le rechercher avec un moteur de recherche, donc cette émission sur RMC Découverte, A350, la nouvelle star. Vous aurez 45 minutes d'explication sur ce qu'a été les essais pour un A350 et notamment ce que fait le mécanicien navigant, puisque j'ai eu la chance d'être de servir d'acteur, j'ai pas dit de vedette, mais d'acteur dans ce film qui raconte un petit peu mon rôle dans l'exécution des essais.
Merci Monsieur Bruno Bigand. Lors de la prochaine émission, nous continuerons cette interview très intéressante sur ce métier passionnant qu'est ingénieur navigant d'essai. Et nous verrons aussi quels ont été les programmes spatiaux spécifiquement européens qui ont suivi Apollo. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un mois, le jeudi 7 novembre 2019, à la même heure. D'ici là, si vous avez des questions relatives au contenu de cette émission, vous pourrez les envoyer à Espace Horizon Inaccessible sur le compte Facebook de Fréquence Mistral. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous y trouverez aussi toutes les références des ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission et les précédentes. Cette émission sera disponible sur le site de la radio fréquencemistral.com et sera rediffusée le mercredi 23 octobre à 15h. Merci à James pour la technique, à François et à son équipe pour leur accueil. Je vous souhaite une très belle fin de journée.